Ariane Chemin, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous racontez la vie du professeur Raoult, son histoire, son enfance, ses travaux et sa personnalité. Vous l'avez rencontré, vous avez enquêté. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui ?
Le fait qu'il ait une histoire, une vie finalement plus romanesque que je ne l'imaginais. En tout cas, il sait très bien la raconter et la construire. Un père qui était médecin militaire au Sénégal, et il a grandi là. D'ailleurs, il a commencé par manger de la chloroquine pendant 10 ans. Je trouve ça intéressant de savoir que c'était un objet familier pour lui. Et puis ensuite, il choisit la microbiologie après avoir hésité. Il ne voulait pas faire médecine comme son père. Il faisait une crise d'adolescence. Il a raconté qu'il était parti 2 ans sur un bateau, un peu moins, à vrai dire, 2 mois. Mais bon, voilà. Et puis, il découvre des virus, des bactéries et en ce sens, il a bien choisi sa spécialité parce que tout de suite, il devient un petit peu connu, célèbre dans le monde de la médecine, il publie et il se fait connaître par le nombre de ses publications alors que en France, les médecins n'avaient pas forcément compris que c'était comme ça qu'on devenait célèbre.
S'il y avait un élément à garder dans sa personnalité, ce serait lequel pour vous ?
Quand même une forme de narcissisme, je dirais. Hein. Il est quand même très content de lui. Mais c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il est plus intelligent que tout le monde. Son QI de 180, il nous l'a détaillé lorsque nous l'avons rencontré. Et puis, que cette intelligence lui donne une mission. C'est comme si, il était un héros français, comme d'autres avant lui, et qu'il était presque un héros hegelien, il a cité le mot d'Hegel, parce que cette intelligence lui donnait un devoir et une mission.
Alors, vous avez parlé de son QI de 180, c'est dès les premières lignes de votre livre, c'est écrit dedans, c'est mieux qu'Einstein, Copernic ou encore Mozart. On voit que c'est un côté, donc, évidemment français, mais il est aussi très international. On voit qu'il a un côté africain obligatoirement, avec le Sénégal, avec son père, et puis les États-Unis avec Trump. On voit qu'il est partout, en fait.
En fait, il est tout sauf parisien. C'est-à-dire qu'il aime Marseille beaucoup plus que Paris. Il n'est pas du tout jacobin. Il ne veut pas d'ailleurs monter à la capitale. Il déteste même ce mot. Quand il rencontre Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui doit venir à lui à Marseille. Effectivement, il est africain et adoré en Afrique noire, et y compris dans les pays du Maghreb, où on continue à prendre de la chloroquine. Il a fait une partie de ses études aux États-Unis. C'est là où il comprend que le référencement sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., c'est peut-être plus important que les publications papier que vous pouvez faire en France simplement. Il a appris de tout ça.
Alors, côté narcissique, côté élite, côté QI 180, Didier Raoult revendique son appartenance aux élites. Il fait même, donc, comme vous venez de le dire, venir le président à Marseille, le président Macron, dans son bureau, en pleine polémique. Comment s'est déroulée cette rencontre ? Elle était assez tendue dans ce que vous écrivez.
D'abord, Emmanuel Macron hésite parce qu'il a tout son cabinet contre lui. Personne ne veut qu'il y aille, hormis un ou deux, et notamment sa chef de cabinet qui et sa conseillère médecine sont farouchement hostiles. Et lui, il s'est dit, je veux juger sur pièce. Et puis surtout, il a vu apparaître des sondages où tout d'un coup, le nom de Didier Raoult figurait au milieu de présidentiel parce que les gens le citaient, tout simplement. Et comme il a une phobie d'un mouvement gilet jaune depuis le début de son quinquennat, il s'est dit, bon, je vais tuer ça dans l'œuf, je vais faire de la politique, je vais chez Raoult, il y va, il s'assied devant lui comme un simple patient, je dirais, hein, sur une petite chaise, alors que Didier Raoult trône dans son fauteuil qui tourne. Et là, il est venu accompagné du président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui est à l'origine un ami de Raoult. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de l'infection Paul Marseillais. Il est de ceux qui avaient insisté auprès d'Emmanuel Macron pour que Raoult entre au conseil scientifique. Et là, devant Emmanuel Macron, il le maltraite, il lui parle très mal, il lui dit « tais-toi Jean-François ». Et Emmanuel Macron ne dit rien. Mais à vrai dire, les journalistes et la presse n'en ont rien su, puisqu'on n'a eu que des images très lointaines de l'extérieur de cette rencontre.
Alors, très grand scientifique, reconnu par ses pairs, le professeur Raoult, c'est un personnage complexe. Il s'installe à Marseille, il a créé donc son institut prestigieux. Et dès l'apparition du Covid-19, même si au début de l'épidémie, il est plutôt sceptique sur la gravité de la maladie, il parle du remède miracle en février 2020, la chloroquine. Le début de la Raoultmania, comme vous l'écrivez, tout le monde parle de ce médicament, les politiques, les people, tout le monde veut y croire, c'est ça la folie française ?
La folie française, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un que peu de personnes connaissaient, si ce n'est le milieu médical spécialisé en microbiologie ou en infectiologie. Et il déboule tout d'un coup avec un remède miracle. D'abord, il ne fait qu'une communication sur YouTube, ce qui ne se fait jamais en médecine. Il dit, calmez-vous, la chloroquine va tous vous guérir. D'ailleurs, courez dans les pharmacies, et bientôt il n'y en aura plus. Et ce ne sera pas plus important qu'une grippe. Et il n'y aura pas plus de morts du Covid que d'accidents de trottinette. Et tout le monde va y croire. D'abord, les élites. et notamment les patrons, parce que ils veulent pas que l'économie s'arrête. Alors le premier à rebondir, c'est par exemple Elon Musk, le patron, l'inventeur de la Tesla, qui convainc Trump de faire un tweet sur la chloroquine. Et puis en France, c'est par exemple la première fortune française, Bernard Arnault, qui croit à la chloroquine. Sa belle-fille tombe malade et il dit à son fils, il faut absolument que tu ailles chercher de la chloroquine pour elle. Enfin, c'est intéressant parce qu'il est à la fois, il réunit autour de son nom, dans une Raoultmania, effectivement, à la fois les classes populaires, mais aussi une élite philosophique, intellectuelle, comme par exemple à la fois Michel Onfray et Bernard-Henri Lévy, et puis des grandes fortunes industrielles et financières.
Est-ce que Lydie Raoult reconnaît ses erreurs ?
Jamais. C'est le seul moment où, si vous voulez l'énerver, il faut lui dire « est-ce que vous ne regrettez pas ?» ou « est-ce que vous n'avez pas été... » Alors là, il ne supporte pas. Et la meilleure preuve qu'il ne regarde pas ses erreurs, c'est qu'il a publié, il y a quelques mois maintenant, une sorte de livre assez compliqué à lire, puisque ce sont les retranscriptions de toutes ses interventions vidéo sur YouTube, à la virgule et au mot près, comme si, au fond, il revendiquait tout ce qu'il avait dit, parce que c'est une sorte de parole sacrée. C'est presque comme une Bible, et d'ailleurs, c'est quasiment sur du papier Bible.
Alors, comment vous pouvez expliquer, puisque maintenant vous avez bien enquêté sur lui, qu'il se soit autant trompé sur le port du masque, sur la deuxième vague à Marseille qui ne devait pas avoir lieu. Il y en a eu quelques erreurs. Et pourtant, il avait vu juste, lui, avant, sur d'autres épidémies, notamment la grippe H1N1, sur le chikungunya ou encore sur la crise de la vache folle. Comment là, sur le Covid-19, il a pu se tromper autant ?
C'est peut-être l'autre folie. C'est-à-dire qu'il a cet homme qui avait rendu un rapport en 2003 au ministre de la Santé, Jean-Pierre Mathy. Il avait tout vu. En fait, en 2003, il raconte ce qui va se passer 17 ans plus tard. Et puis quand la crise arrive, tout d'un coup, c'est comme s'il devenait aveugle. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de psychologie avec lui. Il a tellement le goût du contre-pied, de la contradiction, après avoir toujours dit mais restez calme pour les épidémies précédentes comme vous le dites, et bien quand une grosse épidémie mais inconnue, parce qu'on sait quand même quelque chose sur lequel tout le monde tâtonne, hein, beaucoup de gens se trompent, il n'est pas le seul à dire ce ne sera pas grave. Agnès Buzyn dit la même chose au début, et le ministère de la Santé disent tous la même chose, mais là c'est comme si, par obstination, il s'enferrait dans ses erreurs. Alors, il dit d'abord que la chloroquine va guérir, associée à un antibiotique. Bon, puis que pendant des mois, on fait des études et on voit que ça n'est pas vrai. Effectivement, il dit qu'il n'y aura pas deuxième vague. Manque de bol, elle déboule à Marseille. Il dit qu'on ne pourra pas trouver de vaccin en un an. On en trouve un an. En revanche, il y a des choses sur lesquelles il ne se trompe pas. Par exemple, il est l'un des premiers à dire, comme l'OMS, comme l'Organisation Mondiale de la Santé, il faut tester, pister, ça il le fait très bien, ce sont ces fils qu'on a vus sur la télévision devant l'infectiopole de Marseille, mais c'est vrai qu'il a une part de mystère dans cette psychologie déroutante qu'est celle de Didier Raoult.
Est-ce que l'épisode Didier Raoult est terminé selon vous ?
Il n'est pas complètement terminé parce qu'il a installé en France une sorte de, je dirais, de populisme scientifique au médical, parce que tout d'un coup, c'est le règne du bon sens, un médicament pas cher parce que soi-disant, les labos, de toute façon, ils préfèrent qu'on paye très cher un médicament, donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la chloroquine. On ne veut pas de la chloroquine, tout simplement, c'est désolant parce que ça ne marche pas. Bon, il a installé ça, et puis aujourd'hui, il se retrouve avec des fidèles qui ne sont plus ceux de la première heure, parce que beaucoup l'ont laissé tomber, mais il se retrouve avec des gens dans lesquels, au fond, je pense qu'il ne peut pas se reconnaître vraiment, c'est-à-dire les anti-masques, les anti-passes, tous ces gens un peu sceptiques qui organisent des grandes fêtes sans masque. Et donc finalement, ses soutiens aujourd'hui sont là et c'est un peu triste pour lui.
Est-ce que Didier Raoult a lu votre livre et est-ce qu'il vous a fait des commentaires ?
Alors, il a lu, je le pense, même s'il dit qu'il n'y a rien de ce qui le concerne. Le seul commentaire qu'on a eu, c'est par son chargé de communication, qui est d'ailleurs très présent dans cet ouvrage et qui a dit que voilà, que c'était une enquête, il nous avait vu travailler, que on avait passé pas mal de temps dans les couloirs de l'IHU et que c'était une enquête sérieuse. Voilà, en tout cas, il n'a pas créé une polémique comme peuvent le faire ses fidèles sur les réseaux sociaux où ils sont tout le temps dans le fight permanent.
Ariane Chemin, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Marie-France Etchegouin du livre Raoult, une folie française, publié aux éditions Gallimard.